franceinter.fr.
L'exposition lumineuse pourrait-elle favoriser le stockage des graisses? C'est une question intrigante qui est à la une de la science aujourd'hui, avec donc cette publication de chercheurs néerlandais qui viennent de découvrir chez la souris un lien entre le temps d'exposition à la lumière et le stockage des graisses. Pour en parler et comprendre ce travail, nous recevons le professeur Patrick Tounian, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau. Bonjour à vous.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et notre médecin Dominique Dupin. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Alors justement Dominique, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude?
D'habitude, je vous parle des statistiques qui sont bien difficiles à interpréter quand on fait des observations. Et là, on est en mode expérimental. C'est-à-dire qu'on prend des souris et puis on les met certaines à la lumière plus longtemps, d'autres moins, et on constate des choses. Et qu'est-ce qu'on voit? Celles qui sont exposées à beaucoup de lumière font plus de masse grasse. Donc là, il y a quelque chose qui est incontestable. Mais toute la difficulté dont on va parler, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Qu'est-ce qu'on peut porter chez l'homme? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme comportement à avoir face à cette donnée qui est une donnée expérimentale?
Oui, puisque là, on est vraiment que chez la souris. On n'est pas passé du tout chez l'homme. Hein.
Des souris qui mange la nuit, ouais. C'est pas exactement la même chose que nous.
Donc on fait attention sur les interprétations. Patrick Tounian, est-ce que cette expérience est intéressante comme justement pour les personnes qui s'intéressent au mécanisme de l'obésité ou pas?
Toutes les expériences sont intéressantes, notamment chez l'animal. Pour interpréter de manière simple cette étude, on sait depuis longtemps qu'il y a un lien entre le temps de sommeil et le risque d'obésité et de maladies cardiovasculaires ultérieures, probablement par le stress que provoque le manque de sommeil. Mais ici, c'est pas exactement ça. Puisque les souris étaient exposées soit à 12 heures, soit à 24 heures de lumière, elles devaient dormir, enfin j'espère pour elles. Donc, on va un peu plus loin, et l'interprétation qui est faite passe par la graisse brune, et la graisse brune, a priori, n'est pas un facteur très important pour expliquer l'obésité.
Qu'est-ce que c'est la graisse brune?
Alors c'est quoi la graisse brune? La graisse brune, c'est de la graisse qu'ont les animaux qui hibernent, les ours, les marmottes, et c'est un tas de graisse.
C'est leur petit stockage pour l'hiver?
C'est un stockage pour l'hiver, avec ce qu'on appelle des mitochondries à l'intérieur, qui sont des usines à fabriquer de la chaleur, et donc elles peuvent, pendant qu'elles hibernent, fabriquer de la chaleur. On a longtemps cru que l'homme en avait. On s'aperçoit que, sur les études de ces dernières décennies, que ça n'est pas une. Il n'y a pas beaucoup de graisse brune chez l'homme. J'apprends à personne que l'homme n'est pas un animal qui hiberne. Donc, cette partie qu'on voit chez la souris est difficilement extrapolable chez l'homme. Donc, pour être très très simple, est-ce qu'il y a un lien entre sommeil en général et risque de surcharge graisseuse? On répond oui. Est-ce que le mécanisme décrit dans cette étude peut être extrapolé à l'homme? A priori, non.
Dominique Dupagne, cette exposition et ce lien entre stockage des graisses et exposition lumineuse avaient déjà été étudiés en 2014 sur l'homme. Quelles étaient les conclusions?
Et sur les femmes, on parle.
C'est ce que j'ai dit. L'homme qui est une femme, mais qui est une même, bien sûr. On avait suivi comme ça 100 000 femmes et on avait essayé de trouver un lien statistique entre le fait qu'elles dorment dans le noir avec une veilleuse ou avec de la lumière et leur tour de taille et leur indice de masse corporelle. Et il est clairement sorti, statistiquement, qu'il y avait plus de gras et plus de tour de taille chez des femmes qui dormaient avec de la lumière. Et c'est là que les fameuses stats à la con dont je vous parle régulièrement interviennent, c'est-à-dire qu'on est tenté d'en tirer un lien de cause à effet. Il faut bien sûr ne pas le faire, puisqu'il y a plein d'autres facteurs. On peut très bien imaginer, par exemple, qu'une femme anxieuse dorme avec plus de lumière et en même temps soit portée plus vers la consommation de nourriture. Donc il y a des biais dans tous les sens et on ne peut strictement rien déduire de ce genre de statistiques.
Par contre, c'est plus facile à faire du coup sur le rat.
Alors sur le rat, vous êtes en mode expérimental, vous les tirez au sort. Ce qu'on n'a pas fait, c'est prendre des humains, les tirer au sort, la moitié on va les mettre à la lumière et l'autre moitié on va les mettre à l'ombre, enfin pendant la nuit en tout cas. Ce qui n'est pas totalement impossible à faire. Et là, on pourrait avoir un début de réponse sur des comportements qu'on pourrait conseiller aux familles, pour les enfants, qu'on pourrait conseiller aux gens. Mais pour l'instant, il faut rester très humble devant les données de la science. Nous n'avons pas de choses qui nous permettent de donner des conseils précis.
Bon, c'est pas ce que vous dites, Patrick Tounian, puisque vous nous dites qu'il y a des études qui montrent clairement, en tout cas, le lien entre le manque de sommeil et les problèmes cardiovasculaires ou les problèmes de prise de poids, c'est ça?
Alors, je partage d'ailleurs tout à fait cette analyse, notamment sur les statistiques. Les statistiques n'ont jamais rien démontré. Donc, il y a un lien statistique entre le manque de sommeil et l'obésité ultérieure. Mais, ça ne veut pas dire quel en est le mécanisme, et ça permet quand même de préciser quelque chose d'extrêmement important.
Mais vous voyez, sur les messages qu'on donne, c'est compliqué quand même.
C'est l'interprétation.
Ben oui, bien sûr, mais il faut le saisir, ça.
Et donc, c'est ce que je vais essayer. Voilà, il faut être très très précis. Ce qu'on peut dire, et ça, maintenant, ça paraît assez solide, c'est que l'obésité, puisqu'on en parle, est un dysfonctionnement du cerveau. On parle beaucoup des sodas, des fast-foods. on en est un peu loin, c'est un dysfonctionnement du cerveau. Et quand on manque de sommeil, quand on est anxieux, parce qu'effectivement, les femmes qui dorment avec de la lumière, c'est peut-être parce qu'elles ont peur du noir, elles sont anxieuses. Et donc ça, c'est solide. L'obésité est un dysfonctionnement du cerveau. Maintenant, est-ce que le manque de sommeil est directement lié? Est-ce que le manque de sommeil est la cause de l'anxiété liée éventuellement à l'obésité? Est-ce que c'est la cause de la prise de poids? Ça, c'est très difficile à définir.
Donc vous dites quoi? Il faut soigner le cerveau si on veut régler les problèmes de l'obésité?
Je pense que c'est l'avenir. Dans les décennies qui viennent, le traitement de l'obésité se fera au niveau du
cerveau.
C'est dur
j'en à faire suis comme prescription.
Convaincu. Hein. Ce sera dur, mais ça sera de l'électrostimulation cérébrale, ce sera autre chose.
Dominique?
Je suis à peu près d'accord avec ce que vient de dire le professeur. Il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'obésité est un facteur de survie en cas de famine. Donc on parle bien sûr de quelque chose, d'une maladie qui vient du cerveau pour des pays occidentaux dans lesquels on essaie de vivre vieux et mince. Mais dans des pays où des famines surviennent, le fait d'avoir stocké de la graisse est positif. Donc ça vient de l'évolution darwinienne quand même, cette obésité d'une certaine façon.
François Moutou, parce que vous travaillez sur les mammifères justement.
Oui.
Il y a des choses qui ont été observées justement chez les mammifères vivants dans des contrées où il y a de la lumière la moitié de l'année.
Ben je reviens sur la notion de graisse brune qui est vraiment quelque chose qu'on appelle graisse. Peut-être que le mot est mal choisi parce que ça fait penser à la matière grasse de l'obésité. Mais c'est vraiment un organe presque à part qui contrôle un tout petit peu l'hibernation avec des fonctions extrêmement différentes. Et c'est vrai que si on pense aux souris donc de laboratoire, c'est un animal qui est bien connu. Mais on a des lemmings qui sont des petits rongeurs qui ne sont pas beaucoup plus gros, qui habitent au-delà du cercle polaire et qui sont exposés tout l'été à un soleil continu, inversement tout l'hiver à une nuit continue. Et donc comment ces petits animaux qui n'hibernent pas et qui doivent trouver à manger toute l'année survivent? Et est-ce qu'ils ont par moment des accumulations de graisse sous quelle forme? Est-ce que cela permet de passer les moments les plus difficiles, en sachant qu'il y a certainement beaucoup d'animaux qui disparaissent pendant l'hiver parce que les conditions sont quand même assez rudes?
Oui.
Mais il y a peut-être des modèles aussi à aller chercher en dehors de la zone tempérée où nous habitons.
Dominique?
Oui, il faut comprendre qu'en fait la graisse blanche c'est un réservoir d'huile d'une certaine façon, et la graisse brune c'est une sorte de batterie mobilisable immédiatement et rapidement pour avoir de l'énergie. Ce sont deux choses vraiment qui fonctionnent différemment.
Oui. Patrick Tunion, pour terminer, il faut quand même donner peut-être un petit mot de recommandation sur une bonne hygiène du sommeil, hein. Ça au moins, il y a des messages à délivrer.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça, c'est une certitude. Les enfants notamment doivent bien dormir. On sait que la durée de sommeil est très variable d'un individu à l'autre. Hein. Tout le monde n'a pas besoin de la même durée de sommeil. Mm-hmm. Avoir de l'activité physique, ce n'est pas directement lié à l'obésité. En tout cas, en dehors des statistiques, il n'y a pas de lien réel. Mais c'est une bonne hygiène de vie, comme vous avez dit. Et personne ne contestera qu'un enfant ou un adulte doit bien dormir et bouger.
Et donc dire que nous n'avons pas de données scientifiques actuellement qui disent aux parents « enlevez la veilleuse de vos enfants hein. ». Nous n'avons pas d'argument pour interdire la veilleuse chez les enfants.
Sauf s'ils doivent hiberner prochainement.
Voilà. Je confirme.
Axel, on peut réécouter évidemment la Une de la Science comme toujours.
10 minutes tous les jours en plus du dossier sur franceinter.fr, les podcasts.
Merci beaucoup à tous les trois. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les épisodes traumatisants de la jeunesse seraient observables dans l'ADN des chercheurs de l'université d'Oxford. Ont étudié 12 000 femmes, ont observé leur ADN. Il montre que les patientes ayant subi de forts épisodes stressants dans leur jeunesse conservent des stigmates de ces événements dans leurs chromosomes qui sont légèrement plus courts. Ce phénomène qui reste à confirmer pourrait être dû à la sécrétion d'une hormone, la corticostérone, qui imprimerait la marque du stress durablement dans les cellules. Un nuage d'antimatière, un physicien qui a fait voler accidentellement son avion de recherche au milieu d'un orage a découvert justement que son avion aurait traversé un nuage de positrons de plus d'un kilomètre, les positrons étant les particules d'antimatière associée aux électrons. La formation du nuage restant pour l'instant inconnue, des chercheurs envisagent d'envoyer des ballons au sein de violentes tempêtes pour comprendre ce mécanisme. Et puis que fait la fourmi Odontomachus pour échapper à ses prédateurs? Eh bien, elle fait des bonds dans les airs à l'aide de ses mandibules qui agissent comme des ressorts. C'est très drôle et vous pouvez voir la vidéo de ses pirouettes acrobatiques sur la page Facebook de La Tête au Carré.